Voilà. Donc il y a une dimension aussi, il y a des chapitres, outre les chapitres historiques et un peu sur et sociologiques sur l'école, il y a aussi des dimensions sur l'organisation de l'école, sur la dynamique scolaire et notamment le phénomène de groupe, le phénomène d'enrôlement, hein, de rôle dans les classes, hein, de variété,
Tout à fait.
et tout cela est abordé avec à la fois idées, concepts et des propositions. Et ça nous renvoie à une chose que nos amis anglo-saxons appellent d'un bon mot, qui s'appelle créativité
Oui.
en anglais, et qu'on a du mal, en tout cas dans notre école française, à traduire par créativité, tant le mot est un peu.
Regardez avec distance.
Oui, avec distance et voire même rejeté. C'est-à-dire
Oui.
que on a quelques grands philosophes français qui disent que c'est pas le boulot de l'école.
Oui.
Voilà. Donc manifestement, le message que l'on porte assume plutôt le côté créatif et nécessaire dans l'école.
Oui, là encore, c'est une querelle très française de penser que l'important de ce que doit faire l'enseignement, c'est de communiquer des notions très très bien faites, mais qu'il faut apprendre d'une par cœur, et d'autre part, que leur connaissance statique est suffisante et que tout ce qui est de l'ordre des méthodologies est quelque chose que les gens n'ont qu'à faire ça par eux-mêmes, au lieu qu'au contraire, la communication d'une variété de méthodologies possibles, de la même manière que d'une variété d'orientations possibles dans l'étude d'une discipline, cela est laissé de côté à tort, car effectivement, si on ne s'adapte pas au problème suivant, c'est que chaque enseignant a une originalité nécessaire de sa pédagogie, elle lui est juridiquement reconnue, mais pas toujours concrètement dans la vie de l'institution. Si il l'a adapté, s'il a une originalité, et c'est aussi parce qu'il aura à s'adapter à des élèves qui ne seront pas des élèves identiques les uns et les autres, et qui peuvent apprendre de la même manière, au même moment, les mêmes choses, etc. Il y a là ce que je ne cesse de dénoncer, qui est l'une des difficultés qui fait que justement beaucoup de mal se dit sur l'école, c'est qu'on voudrait que l'école soit modélisée sur les élèves qui ont le plus de facilité. Eh bien, oui, mais il faut aussi qu'elle soit modélisée pour permettre à ceux qui ont moins de facilité de toute nature, de santé et d'entourage et de moyens et de tout ce que l'on peut imaginer, et de jeunesse et de joie d'enfance et autres, etc. Ils ne sont pas tous les mêmes, les élèves. Et adaptés aux uns et aux autres. Et il y a des élèves qui ont des aptitudes manuelles qu'il ne faudrait pas négliger. Mais là encore, c'est la tendance française à penser que ce qui est professionnel et manuel est secondaire. Seul compte les idées les plus abstraites, les savoirs les plus élevés, les plus lointains, ce qui fait négliger la réalité, encore une fois, des aspects de procédure, des aspects pratiques, des aspects méthodologiques qui ne sont pas du tout suffisamment transmis, éduqué, exercé et exercé dans l'originalité, avec le fait qu'il n'y a pas une seule méthode, comme de même qu'il n'y a pas une seule manière de préciser un savoir, il n'y a pas une seule manière de retenir dans sa tête, d'intégrer, etc. Il y a des mémoires différentes, il y a des élèves, et ça, tout se passe comme si chacun avait la même mémoire, alors qu'il y a des mémoires à dominante auditive, d'autres à dominante visuelle, d'autres à dominante tactile, tout ce que vous voudrez, enfin les travaux ont été faits là-dessus. Tout se passe comme si ça n'existait pas, que chaque élève apprenait de la même manière, de la même façon. C'est ce que moi j'appelle le mythe identitaire, qui fait que la notion d'égalité dans laquelle on veut placer les élèves est transformée en identité
Identité.
de ce qu'ils ont à faire et de ce pourquoi on les oriente, alors que nous avons besoin, au contraire, dans le monde moderne, plus encore qu'avant, d'une variété d'orientations et de tempéraments et de méthodologies et de savoirs extrêmement différents, avec le fait en même temps de capacité d'interaction entre les différentes personnes, les uns et les autres, les différents différents âges, les différents aspects, il y a cet aspect interactif qui est de plus en plus manifeste de notre époque et que, heureusement, Internet signifie de la façon la plus évidente et la plus opératoire.
Oui, parce que donc le malheureux débat, c'est même pas un débat, c'est le procès qu'on a fait au concept et aux approches créatives en France, qui fait que le mot n'existe pas dans l'éducation,
par définition,
curieusement.
L'élève ne doit pas créer, l'élève ne doit pas être mis, on lui fait faire des devoirs qui doivent recopier avec des méthodes, des plans qu'on lui impose, avec le fait qu'il a, il a à faire des choses en répétition. Et surtout l'aspect de sa création, de son originalité, et surtout refusé d'une certaine manière, contradictoirement.
Et fait que effectivement on privilégie une seule entrée, un seul type en tout cas de savoir. Et donc c'est aussi l'impossibilité pour ceux qui ont partagé cette approche de pouvoir combiner effectivement à la fois la place des savoirs, qui sont absolument, il ne s'agit pas de réinventer les savoirs, mais essayer aussi de travailler sur une part collective d'appropriation, de mise en application,
d'adaptation,
et puis aussi du développement personnel, c'est-à-dire que si on développe un certain nombre de ressources personnelles, et, que ce soit pour les personnes et pour les groupes, il va y avoir une plus grande richesse, notamment des productions, une plus grande richesse de mise en application d'un certain nombre de savoirs. Donc c'est loin d'être la négation savoir, c'est au contraire une sorte de valorisation des savoirs dans les différentes activités.
Le champ du savoir est tellement immense que vouloir faire que les élèves soient placé en état d'appréhender cette totalité est un rêve heureux, mais enfin dont il faut se rendre compte de l'irréalisme et de l'aspect donc qui va être extrêmement dangereux, parce qu'en voulant faire trop apprendre, on empêche justement cette créativité qui me paraît nécessaire. Il faut qu'il y ait un jeu intérieur, il faut que les idées suscitent, et il faut que l'enseignant puisse inviter les élèves, que tout formateur puisse inviter les gens en formation à justement être en état de recherche. Actuellement, il est clair que tout le monde moderne est dominé, même au niveau économique, par le problème de la recherche. Et l'enseignement ne serait pas de mettre l'élève en état de recherche des savoirs à acquérir, des savoirs, à son niveau, qui peu à peu lui permettront d'accéder en bonne relation, en correction par rapport aux savoirs les plus scientifiques. Mais encore une fois, tout le monde ne peut pas connaître la pensée d'Einstein et la pensée de Lévi-Strauss et la pensée de tous les esprits que vous voudrez automatiquement. Mais en même temps, chacun a quelque chose à construire. De plus en plus, on a besoin d'une participation des uns et des autres à cette mise en extraordinaire étude de la réalité extraordinaire qui apparaît dans l'humanité, dans la pensée humaine et dans le devenir de la civilisation.
Ça m'évoque un passage, alors je suis pas sûr de l'avoir trouvé dans ce livre-là, où vous évoquiez ce que un autre auteur, vous allez peut-être me rappeler son nom, évoquait comme le potentiel de catastrophe. Chacun d'entre nous étant donc porteur d'un potentiel.
C'est Jacques Arduano.
Voilà, qui potentiel de catastrophe. Et donc le maîtriser et que l'éducation serve à dompter ce potentiel et dans une part plus positive, qui serait une part justement créative. Chacun.
Oui, parce que c'est la contrepartie.
Présent au monde, ça sera intéressant.
C'est la contrepartie de l'extraordinaire disposition de moyens technologiques qui est mise à la disposition. Il suffit de voir les petits appareils de téléphone avec les capacités de prendre des photos, des films, etc. Les fantasmes. Les moyens qui, en même temps, informatiques qui se sont développés de tous les côtés. Il y a des moyens extraordinaires. Mais effectivement, cette pluralité de moyens fait que ils ont aussi, par définition, des risques. C'est-à-dire que les potentiels de catastrophe que chaque individu possède peuvent être accrus, ils peuvent
être amplifiés, démultipliés
par des comment dirais-je, des traîtrises même sur l'informatique, par des aspects multiples, par une voiture qu'on conduit alors qu'on ne sait pas conduire, et les accidents, enfin tout ce que vous voudrez, on peut imaginer tout ce que l'on veut. Et effectivement, moi, je vois encore des enfants qui veulent à 10 ans prendre le volant d'une voiture, et ça existe. Si les parents ne font pas attention, et s'ils ont laissé les clés, il y a des risques possibles, donc des risques accrus, ce potentiel de catastrophe. Et par rapport à ça, il y a au contraire l'aspect des potentiels de créativité complémentaires, antagonistes. Mais là encore, les choses sont le mot dialogique. C'est parce qu'il y a des créativités possibles que effectivement il y a aussi des risques, et inversement, ces risques peuvent être transformés en possibilités créatives.
Alors c'est maintenant curieux, on est dans les années, la fin des années 2000, et on commence à entrevoir ce que sont les autres systèmes, parce que nous, il y a 10-15 ans, les autres systèmes éducatifs nous étaient plus opaques, en tout cas on ne voulait peut-être pas forcément bien les regarder, et donc nous étions donc français, donc universel, c'est vous qui le dites souvent. Dans les autres systèmes éducatifs, il existe des modules de formation, alors module, unité, moment, séquence, peu importe, qui portent soit directement le nom, le titre de créativité, soit, je vois ça par exemple en Angleterre, qui portent le nom par exemple de drama, ça s'appelle drama, qui sont des moments où on y trouve ce que vous signalez justement comme... les chances de l'organisation scolaire, où on y trouve de l'implication, des jeux de rôle, des invitations à l'interaction collective, etc. Donc ça fait partie explicitement des contenus et des objectifs de la formation des jeunes. Et manifestement, en France, actuellement, tel que c'est pensé, tel que l'organisation scolaire est pensée, il n'y a pas de place pour ça. C'est-à-dire qu'on a une lecture, on voit dans le secondaire au moins, mais le secondaire, c'est 10 ans de la vie d'un élève, enfin, au moins. Il y a une lecture qui reste très en tuyau d'orgue, qui est une lecture disciplinaire des choses. C'est-à-dire que ce qu'on y évoque comme jeu créatif, pour le coup, n'a pas sa place. Enfin, on voudrait le faire, que ça serait en plus, mais pas dedans.
Il y a eu des effets dans lesquels on a donné à des élèves des capacités, par exemple, justement par groupe de deux, avec deux enseignants de disciplines différentes, de faire des essais de création de certaines
Tout
études. Il y a eu plusieurs aspects, justement, mais l'aspect interdisciplinaire que nous n'avons cessé pendant 50 ans, de vouloir faire réaliser dans l'école avec ce que Piaget souhaitait et manifester de plus en plus. Tout ça a toujours été mis en difficulté, arrêté et stoppé parce que justement il y a cette tendance séparative dans laquelle, contrairement à ce besoin inéluctable, à ce besoin intérieur, la complexité des choses n'est pas abordée. On croit qu'on coupe en tranches, comme si l'élève ensuite devait reconstituer la réalité en lui-même, dans sa responsabilité. On lui suppose une créativité sans lui donner des chances de créativité. Voilà. Et on le met en état de connaissances qui ne veulent pas fonctionner ensemble, avec le fait alors de l'individualisme radical qui a tendance à prédominer entre les collègues enseignants, et qui n'est pas du tout à l'heure actuelle dans l'esprit de la recherche, notamment, où les gens sont obligés de travailler ensemble et non plus de s'isoler et dans leur coin et de travailler en ignorant les autres. Non, c'est plus possible.
C'est l'injonction paradoxale qui nous est faite, où il y a une prescription très forte au niveau des textes sur la finalité du système éducatif, c'est bien l'autonomie de l'élève, l'autonomie des jeunes, etc. Et d'entendre des professeurs qui sont au niveau du bac, par exemple, qui disent, qui constatent que les élèves dans la production orale, la présentation, etc., n'ont pas su avoir une présentation excellente de leurs travaux, je pense à des TPE, etc., où manifestement, on dit, mais quand il a appris pendant 15 ans, si, effectivement, on arrive à ce résultat-là. C'est ce que disent pas mal de profs de fac actuellement, quand ils reçoivent des postes bac, hein, et oui, qui disent ils ne savent pas travailler.
Oui, mais ça, nous sommes bien d'accord, mais en même temps...
Donc il y a un problème de, pas, manifestement
tout
de décalage.
La chose ouais. classique, c'est que les professeurs du supérieur critiquent leurs collègues du second degré, lesquels critiquent ceux de lycée, les professeurs de collège, les professeurs de collège critiquent les instituteurs, les professeurs d'école. Donc il y a ce besoin constamment de trouver que les choses ne sont pas comme on les espère, comme on les voudrait, comme on les ferait soi. Bon, alors là, je crois qu'il faudrait tout de même que nos collègues puissent s'en amuser et eux-mêmes se distancier de ce genre de critiques faciles. Non, ben les choses sont ce qu'elles sont. Eh ben, on s'adapte. Et l'adaptation, après tout, c'est bien le sens de l'évolution. Eh bien, nous vivons avec Darwin cette année, depuis plusieurs années, alors allons-y. Il faut que savoir donner des chances d'adaptation. Et ça, pour cela, ça suppose justement des moments où la créativité va être soutenue, inspirée, demandée, et en confiance en même temps vis-à-vis de l'élève, en confiance dans le fait qu'il y a quelque chose de possible et de différent en chacun. Et dans ce souci donc de tout ce que nous avons voulu faire sur la pédagogie différenciée et qui à chaque instant a été critiqué sous prétexte qu'il doit y avoir une pédagogie absolument identique ou universelle, et puis même pas de pédagogie pour certains, il suffit d'avoir des savoirs et ça passe tout de suite dans la tête des élèves. Il y a ces aspects mythiques et ces aspects, justement, dans lesquels c'est l'individualisme qui s'environne de ses savoirs dans sa tête et qui pense qu'il n'a qu'à donc les diffuser oratoirement, comme si, éventuellement, il éternuait avec la bronchite ou avec même l'aspect porcin que l'on veut attribuer maintenant au risque de rhume et de réalité environnante de tous les côtés.
En tout cas, sur la créativité, effectivement, autant c'est une invitation forte que vous faites pour les élèves. C'est une leçon qu'on pourrait, en sautant le degré, une invitation à faire aussi aux enseignants. Et je pense toujours à des enseignants débutants. Hein. Quels conseils on pourrait leur donner en ce moment de rentrée? C'est de travailler et de trouver des moments de travail avec des collègues, jeunes ou moins jeunes, des modules aussi de formation, où il y a une invitation à cette créativité, à cette... Vous avez évoqué le mot d'ingénierie aussi, d'aller travailler ses propres ressources.
Chercher des supports, voilà. chercher des illustrations, chercher quelque chose qui va fixer les mémoires. Si les réalités ne sont pas avec des moments qui leur permettent justement d'être signifiés sur une nomenclature, etc. S'il n'y a pas ces possibilités de repérage et d'illustration et de réalité esthétique également, alors ça devient de la monotonie baragouinée et qui doit être reçue en révération tout à fait inutile.
Il y a un jeu de cartes, un jeu qui invite à la créativité, qui avait été créé par Brian Eno, qui est un musicien, un compositeur, depuis une trentaine d'années dans le milieu de la musique anglaise contemporaine, rock en gros, mais avec un gros succès. Et donc, parmi ce jeu de cartes qui sont des invitations un peu à penser autrement, il y a une invitation que je retiens toujours, et qui m'invite à penser alternativement. C'est-à-dire, c'est une question qui revient, c'est comment l'aurais-je fait ? J'ai fait un choix, je le fais, j'ai pris un choix de faire ma classe, de le traiter de telle façon, etc. Et cette invitation reste toujours un peu gravée à côté en disant à essayer de penser le différent. Sur les mêmes données techniques, hein, même contextuelles, etc., comment finalement je l'aurais fait différemment ? Et donc cette invitation constamment à penser ce que j'ai refusé ou ce que je n'ai pas envisagé est toujours un moment intéressant d'enrichissement.
Ce que vous dites est très profond. Et moi je sais que dans les travaux que nous avons faits au service de la formation des enseignants, nous avions, et nous l'avons dit au Conseil de l'Europe en particulier, nous avons proposé justement que une certaine forme, manière de faire pour enseigner quelque chose dans une discipline donnée, soit présenté à des collègues et qu'ensuite, à cette présentation de 20 à 25 minutes, disant je fais comme ceci, comme cela, j'utilise tel et tel document, tel et tel moyen technique, etc., chacun soit invité à se mettre en, par petits groupes de deux ou trois et à dire, bon, si nous prenons dans les quelques pôles entre lesquels s'organise son action, si nous en prenions un et que nous le développions à 50% au lieu de le faire aussi à 100% ou à 200%, si nous prenions quelque chose, etc., et on va travailler en disant qu'est-ce qui se passe, comment, qu'est-ce que ça donnerait, etc., entre collègues, on essaie de réfléchir de, créativement, à voir les possibilités. Et de cela, à la fin, etc., on peut, une fois qu'on a mis ensemble ce que les différentes personnes ou les différents petits groupes auront pu élaborer, on voit une variété, on voit une possibilité, on voit que, ce qui va pouvoir ressortir originalement pour chacun dans ses choix. Et on, comment dirais-je, moi je me souviens qu'au Conseil de l'Europe, dans une, comment dirais-je, une demande qui m'avait été faite, savoir quelle est la chose la plus essentielle à, donc, à enseigner aux jeunes enseignants et aux enseignants en général d'ailleurs, eh bien je disais c'est savoir transposer. Ne pas prendre une méthode, ne pas prendre un savoir, etc., sans voir en transposition comment ça va être adaptable à un projet défini, à un lieu défini, à un âge défini. On ne fera pas les mêmes présentations à des jeunes, à des moins jeunes et à des plus âgés, etc., enfin tout ce que l'on voudra. Mais encore, la transposition qui permet justement de s'ajuster et qui fait que l'enseignant va garder lui-même cette capacité de à chaque instant d'être au courant de ce que font les autres, non pas pour refaire ce que font les autres à l'identique, mais refaire une certaine idée inspirée par ce que les autres ont fait et qui va avoir une force d'originalité pour lui et une force d'intérêt qu'il va vérifier auprès de ses élèves.
Oui.
Et avec eux.
Ce que vous venez de signaler, je pense, permet d'intégrer le mot de créativité qui est un mot d'une autre origine, culturelle, professionnelle, au monde de l'éducation. Effectivement, quand on décode, si créativité est une compétence générique qui permet de savoir transposer, savoir transférer. C'est même ce qu'on appelle une méta-compétence en tant que telle, et comme d'autres compétences qu'on cherche à développer dans l'éducation, sur la communication, hein, sur le travail avec autrui, etc. Ce sont des compétences qu'on cherche à développer maintenant à tout niveau. Le savoir transféré est un savoir expert, recherché en tout cas.
C'est ça, les savoirs auprès de tous les élèves. Experts dans leur variété et non pas dans une monotonie quelconque.
Tout à fait. Eh bien, écoutez, c'est une invitation à la créativité.
Voilà. Une invitation à la créativité.
On va juste...